Vous êtes bien sur Monobloc. Nous sommes au Café de la Traverse à Saint-Cyprien. Il y a quelques personnes qui sont venues nous rejoindre, nous écouter. Les uns boivent de la bière, d'autres des chocolats chauds. C'est cette heure un peu transitoire entre le goûter et l'apéro. Et donc, on est assis autour de cette table avec Fabienne Oberweiss. Bonsoir.
Bonsoir.
Fabienne, vous êtes conteuse du Périgord noir, du Sarladais plus précisément.
Oui.
Et donc, vous allez tout à l'heure nous donner un conte.
Une légende.
Une légende.
Que je vais conter.
Et comment êtes-vous arrivée, double question, comment êtes-vous arrivée dans le Périgord et comment êtes-vous arrivée au conte?
Alors, le Périgord, c'est plutôt une histoire personnelle. Ce qui fait que j'y reste surtout, c'est que j'ai rencontré une terre de légendes et de contes. Une terre qui a une histoire et un ancrage dans sa culture, dans ses représentations, dans son imaginaire, qui est du coup bien ancré. C'est là, c'est présent, c'est toujours présent. Donc ça, c'est ce qui fait que j'y reste. Et puis l'environnement, évidemment, qui est un très bel environnement. Hein, le Périgord noir et tous les Périgords sont merveilleux concernant la nature. Ce qui fait la partie conteuse, j'aime à dire que je suis un petit peu une conteuse atypique. Parce qu'en fait, on m'a pas raconté d'histoire.
Quand vous étiez petite?
Oui, quand j'étais petite. Moi, j'ai pas eu une grand-mère, j'ai pas eu un tonton, j'ai pas eu un parent qui m'a raconté des histoires ou qui m'a lu des histoires. J'ai grandi dans des banlieues. Et c'est le conte qui est venu à moi, à 30 ans, des conteurs. Rencontré par hasard, et quelque chose s'est produit là, quelque chose de l'ordre de « je fais partie d'un tout, j'ai une permission à me donner d'être là et de participer à cette tradition, à cette ancestralité ». Voilà, donc ça fait une quinzaine d'années maintenant que je raconte, que le répertoire est pas tout à fait en place, mais effectivement, en Périgord, j'ai vraiment le sentiment que là, il y a une matière extraordinaire, en fait, pour raconter, trouver sa place sur ce territoire, ouais, vraiment.
Vous dites que ce sont donc des conteurs qui vous ont amené vers le conte.
Oui.
C'est une grande tradition de transmission
oui.
orale. En fait, c'est un peu comme une cooptation. Il faut qu'un conteur vous raconte un conte pour faire de vous un conteur.
Ah, c'est une bonne question.
Comme
non, je pense qu'on a quelque chose en nous, en fait. Je crois que j'avais quelque chose en moi, dans mon histoire, dans ma personnalité. Qui a fait que je n'ai pas fait que les écouter, les contes et les lire, et j'ai eu envie de les transmettre, de les dire. Il y avait quelque chose, une espèce d'urgence, je sais pas, les gens artistes ont sûrement cette urgence-là, mais je pense que beaucoup, enfin, moi, ce que j'ai envie de témoigner, c'est que c'est pas parce qu'on vous a pas raconté d'histoire que vous n'avez pas le droit d'en raconter. C'est pas parce que vous n'habitez pas un territoire et que vous venez des banlieues comme moi que vous n'avez pas le droit de devenir un conteur. Voilà, c'est un peu le message que moi j'aime bien faire passer, qui est pas toujours un message entendu de la part des conteurs, et tant mieux, qui ont reçu, eux, la parole d'un ancien, d'une famille, d'un territoire. Mais moi, c'est pas mon cas. Voilà.
Et alors, pour vous, qu'est-ce que c'est un conte, en fait? À quoi ça sert et pourquoi est-ce qu'on le raconte? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le raconter? Quelle serait la fonction, s'il y en a une, du conte?
Pour moi, le conte et les légendes, je dis bien pour moi parce que je n'ai pas assez de connaissances. Je connais un monsieur qui va répondre beaucoup mieux que moi à cette question-là, qui va en parler après moi. En tout cas, pour moi, c'est... Je crois que c'est le domaine des rêves et de l'imaginaire du peuple. C'est ce que le peuple a rêvé, fantasmé, là où il a pu transformer ses peurs, les dangers. Ouais, c'est une façon de... Vous avez dit le mot?
Oui, cathartique.
Ouais, c'est une façon cathartique de raconter nos peurs, nos préoccupations humaines, et elles sont universelles en Périgord ou ailleurs, ou dans n'importe quel pays. Je pense que c'est le rêve et l'imaginaire d'un peuple, ou d'un territoire, ou de gens.
Et ça raconte...
Ça vous convient ?
Oui, Fabienne s'adresse à Jean-Paul Auriac, qui nous rejoindra tout à l'heure autour de cette table. Donc oui, il y a cette fonction cathartique, et il y a aussi une fonction presque topographique, géographique, pour prévenir de certains dangers liés au territoire.
Oui, ça va être le cas de la légende que je vais raconter. Oui, c'est, les contes et les légendes, elles avaient aussi cette fonction, elles avaient des fonctions aussi, et elles pouvaient avoir une fonction effectivement d'avertissement, par exemple. Un lieu dangereux, on y mettait un bon dragon ou quelque chose de bien dangereux, et puis tout à coup, on faisait quand même plus attention. La nuit sortir, ben il y a des loups-garous, quoi. Voilà. Maintenant, on n'y croit plus, ben, du coup, on sort fait... trop la nuit.
Et on fait n'importe quoi.
Il se passe plein de choses la nuit.
Eh ben, donc on va vous écouter, donc nous raconter ce conte. Donc c'est un conte sur une créature, un étrange animal local qu'on appelle la couloubre.
Le. Ici on dit le.
Le.
Mais
le
c'est vrai couloubre. Que dans d'autres régions c'est là.
Oui, parce que c'est une légende occitane et l'Occitane, le pays occitan.
Le Périgord, oui. Le couloubre.
Est-ce que vous voulez présenter le couloubre avant ou on vous écoute
Vais le présenter.
Ok.
Je vais le présenter en le racontant.
Ok, on vous écoute. Merci.
Donc ici, en Périgord, eh bien, nous aussi, on a notre animal légendaire, notre monstre, notre drac, comme diraient d'autres, dans d'autres régions. Ici, on a le couloubre qu'ils disent. Le couloubre, c'est un dragon, enfin, il a une gueule de dragon. Alors, il a des petites dents plein sa gueule, et puis des grandes canines. Il a des yeux noirs, là, vitreux, vides. Et puis des petites oreilles pointues sur la tête. Son corps, lui, c'est une grande queue de serpent, une queue de couleuvre. C'est pour ça qu'on l'appelle le couloubre. Et puis il a des ailes sur le dos, parce que le couloubre, il peut voler. Il peut nager au fond de la Dordogne et puis il peut vivre dans sa caverne là-bas. Là-bas, c'est sur la falaise, à côté de la jolie ville de la Linde. Là, il est dans sa caverne, devant la Dordogne. Il est immense. Et on dit que quand il buvait l'eau de la Dordogne, là, tout en bas de sa caverne, sa queue à lui, elle touchait la falaise là-haut, au-dessus de sa caverne. Immense qu'il était, ce couloubre. Alors, il buvait beaucoup, hein, il en buvait des litres de la Dordogne. Hein. Et à chaque goulet, il remuait tout ça, les pierres, les rochers. Il faisait un bazar là-dessous. À tel point que là, juste où il buvait, on a appelé cet endroit le Sceau de la Gratus. C'est un endroit où c'est dangereux, où les navigateurs, ils font attention, ils faisaient attention, c'était bien dangereux par là. Il faisait pas que boire, hein, le couloubre, hein. Il mangeait, et il mangeait beaucoup. Et puis, bien sûr, ce qu'il aimait, c'était la chair, la bonne chair des bêtes et des humains. Mmh. En ce pays, là-bas, les gens de la Linde, il y en avait des disparitions, hein, des jeunes filles, des enfants, des paysans. Ben eux, là-bas, ils savaient bien que quand il y avait des disparitions non élucidées, comme on dit maintenant, hein, j'ai du mal à le dire même, non élucidées qu'on dit, bon, eux, ils savaient que c'était le couloubre. Oh, ils s'en plaignaient bien assez. Les jours de festin, les grands jours de fête pour le couloubre, c'était quand les gabarres passaient sur la Dordogne. Ah là ! Déjà, elles devaient faire attention, parce que c'était dangereux. Donc, elles avançaient doucement sur la Dordogne. Mais elles connaissaient aussi le couloubre et tous ses dégâts. Alors, elles essayaient, sur les gabarres, les gabariers, ils essayaient de ne pas faire de bruit. T'es, tu parles. au moindre bruissement, au moindre craquement. Le couleuvre, il ouvrait les yeux et il se jetait sur la gabarre. Il l'écrabouillait, il l'enfonçait jusqu'au fond de la Dordogne et il ramenait tous les gabariers dans sa caverne pour les manger. Mais bon, il y en avait bien assez quand même. Ça durait depuis très longtemps, cette histoire. Les gens là-bas, ils en avaient quand même assez de cette peur, de cette disparition. Alors, ils ont décidé d'en parler aux prêtres de la Lende. Et à quelques notables, là, quelques gens influents. Et ils ont réussi à les décider, à aller trouver Saint-Front. Saint-Front, c'était l'évêque de Périgueux, le grand évêque. L'évêque, il les a reçus, il les a bien écoutés à tous ces gens. Et puis il leur a dit tout naturellement qu'il pouvait et qu'il allait faire disparaître le couleuvre. 2 jours plus tard, il était là, à la Lende, une haie d'honneur devant lui, les gens agenouillés qui se signaient, mon du Seigneur, mon excellence, il y en avait de partout. Et ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi, Saint-Front, jusqu'au bord de la falaise. Et là, à l'entrée du chemin, il leur a dit « Oh, restez là, priez, priez mes fidèles, je reviens dans quelques heures. » Et il est parti, Saint-Front. Les gens sont restés là, ont attendu. Et Saint-Front, il est revenu. Tout le monde est resté là, pendu à ses lèvres, attendant ses mots. Et il leur a dit « J'ai vaincu le couleuvre, mes amis. J'ai vaincu le couleuvre. Vous en êtes débarrassés. » Très bien. Et puis, on a su, parce qu'il l'a raconté quand même, Saint-Front, quelque temps plus tard, on a su son histoire, ce qui s'était passé là-bas. Quand il est arrivé devant la caverne, le couleuvre, il dormait. Alors Saint-Front, il a pris sa croix du Seigneur, sa grande perche là de prêcheur, il l'a levée vers le ciel et il s'est mis à prier, à prier, à prier, à prier. Et quand le couleuvre il s'est réveillé, il a voulu se jeter sur Saint-Front. Mais entre eux, il y avait un mur de verre invisible. Alors le couleuvre, il s'est jeté, il a cogné, il a griffé, il est parti dans tous les sens dans cette caverne. Rien à faire, il n'a pas atteint l'évêque. Et puis il est sorti de la caverne et il a continué. Il a griffé la falaise, on peut encore voir des griffes sur la falaise. Et puis il a tourné, tournevolé. L'évêque a dit, il était complètement fou cet animal, possédé par le mal et par le diable. Et à tel point qu'à un moment, il s'est épuisé le pauvre couleuvre. Il est tombé, pam, là, au bord de la Dordogne. Il a regardé l'évêque là-haut, pauvre diable. Et puis il s'est enfoncé tout au fond de la Dordogne. Et c'est ainsi que le couleuvre a disparu de là-bas. Et les gens de la Lende, ils ont pu vivre plus tranquillement. Mais ce couleuvre, il lui en fallait bien plus quand même pour l'exterminer. Il paraît qu'il est parti en direction de l'océan. Il paraît que de l'océan, il s'est dirigé vers les gens du Vaucluse là-bas. Et vers les gens du Vaucluse, à la fontaine du Vaucluse, vous savez, là où la source de la Sorgue prend ses racines, là. Eh bien, il est resté bien longtemps là-bas, aller hanter les gens de là-bas. Mais bon, ça c'est leur histoire. Hein. C'est à eux de la raconter, pas à moi.
Merci.